Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 29 avril et il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons d'abord avec Jean-François No pour l'association Chant contre Chant qui organise le festival Doc Seven. Ce sera du 8 au 11 mai prochain à la salle, on en parle avec lui dans un instant. Et puis je serai ensuite par téléphone avec Cindy Chapelle, auteure et directrice éditoriale des éditions Grand Petit Monde, édition 100% lozérienne et qui publie Gardien de la Nature en partenariat avec le Parc National des Cévennes. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Allez, en avant pour l'école. Gabriel Attal s'est dit favorable jeudi 18 avril dernier à ce que les élèves, je cite, qui perturbent le plus gravement les cours, soient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup. Le Premier ministre a affirmé que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquences. Il n'est pas content, papa Attal, et il le fait savoir en se fâchant tout rouge. Seule condition pour ne pas être sanctionné et effacer cette mention, réaliser, je cite, des activités d'intérêt général et bien sûr se tenir à carreau, précise le Premier ministre. Ce dont il est hors de question par contre, c'est de rendre l'école attractive. C'est de faire en sorte de leur donner les moyens à ces jeunes bordeleurs de s'épanouir dans un lieu qui pourrait autant que faire se peut les sauver d'un quotidien trop souvent difficile. Mais difficile pour le Premier ministre, issu de classes favorisées voire privilégiées, de se rendre compte de ce qu'est la réalité. La réalité pour ces profs en Seine-Saint-Denis en grève depuis des semaines pour dénoncer leur manque criant de moyens. Et moi qui ai la chance d'aller dans des collèges grâce à la radio, la constante des manques de moyens, je la retrouve partout. Une chose est sûre, c'est tellement plus simple de sortir le bâton. De plus, Gabriel Attal a également affirmé sa confiance en l'équipe éducative. Je fais une totale confiance aux chefs d'établissement, à leurs équipes, aux professeurs pour faire des propositions, pour innover, pour lancer de nouvelles idées, pour responsabiliser les élèves, pour insuffler cette culture du civisme à l'école. C'est pareil, monsieur Attal. Des idées, ces équipes en qui vous avez toute confiance, elles en ont énormément. Encore faut-il que vous vouliez les écouter et, si possible, ouvrir le portefeuille pour les financer. Et vous, vous n'allez faire ni l'un ni l'autre. Et j'espère que le bâton que vous leur tendez ne coûte pas cher. Faudrait pas ruiner l'éducation nationale plus qu'elle ne l'est déjà.
Eh ouais, on a des nouveaux collèges. Collège de l'impunité, on va faire des bons élèves. Les enseignants seront armés, les classes en béton armées. Quant à la cour de récré conçue en fil barbelé. Eh ouais, enfin une nouvelle éducation. Travail, famille, patrie, éduquons la nation. Vos gosses sont des junkies, qu'on les jette en prison. Ce sont de malpolis, qu'ont des parents indécis. Eh ouais, on prend des décisions. Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation. Puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. Allez, fusillons les droits de l'enfance. On avait trop avancé dans notre si jolie France. Enfermons les nouveau-nés avant qu'ils se mettent à pleurer. Le calme c'est la santé, faut pas se laisser emmerder. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Beaucoup de nos voisins en ont fait l'expérience. La prison fait du bien, ça remet dans le bon sens. Tu deviendras un adulte sans passer l'adolescence. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. On va leur péter 20 chaînes de télévision. Ça va leur zapper leur envie de rébellion. Allez, fusillons les droits de l'enfance. Augmentons le temps de travail, diminuons les vacances. Faut que les parents bossent, faut que les parents bossent. Pendant que la police s'occupe de leurs gosses. Allez, fusillons notre jeunesse. Fini les feignants remplis d'allégresse. Fini les rêves parties, tout le monde est fini. fitness. Le sport c'est la santé, les jeunes font que se droguer.
Allez, sortons le gouvernement, impunité zéro pour notre président. Prison pour les ministres qui se sont augmentés pendant que la moitié du peuple se bat pour bouffer. Allez, sortons le gouvernement, impunité zéro pour notre président. Il est sûrement plus coupable que la misère des enfants qu'il veut enfermer en bon dirigeant. Allez, sortons le gouvernement, il faut avancer, on est intelligent. On va user les pavés, user les pavés, user les pavés, et ils vont reculer. User les pavés, user les pavés, user les pavés, et ils vont reculer. User les pavés, user les pavés, user les pavés, et ils vont reculer. Usez les pavés, usez les pavés, et ils vont reculer.
Vous êtes bien sûr Radio Bartas et nous sommes ce matin en ligne avec Jean-François Anneau. Bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour.
Pour l'association Chant contre Chant, la 23e édition de Doc Cévennes, Festival international du documentaire à La Salle en Cévennes, ce sera du 8 au 11 mai prochain. Merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. Eh ben, ça commence à en faire des années que ce festival est né. Eh ben, comment a commencé cette aventure de l'asso, mais aussi du festival ?
Eh bien, ça fait bientôt un quart de siècle, hein. ça nous rajeunit pas. En même temps, c'est le bel âge quand même, 25 ans. Enfin, là, c'est la 23e édition, une année de creux avec le Covid, mais je dirais que l'aventure a commencé il y a 25 ans, quoi. Et un groupe d'habitants s'est réuni autour d'un documentariste, la Salois, Henri de la Tour. Et puis, ça fait un peu, ça a pris corps, ça a pris racine, et ça a démarré, quoi.
Alors, c'est justement parce que il est documentariste, c'est comme ça qu'on dit que vous avez choisi ce genre de cinéma plus qu'un autre.
Oui, certainement, il y avait une appétence pour le documentaire parce qu'il y avait là des gens qui en faisaient, mais aussi parce qu'il était important, je crois, pour les habitants qui se sont réunis autour de cette idée d'interroger le réel, donc d'avoir la possibilité de passer des films du cinéma qui interrogent le réel autrement que la fiction, c'est-à-dire en ayant cette appétence pour se mettre en immersion pour comprendre ce réel, l'interroger, quoi.
Alors, on a le Festival du film Vu du Québec, ici à Florac, hein, qui a cartonné début avril. D'ailleurs, vous lui faites aussi la part belle au cinéma québécois, on en parlera tout à l'heure. Et quels sont les enjeux d'organiser un tel festival face aux plateformes de streaming? Plus simplement, est-ce que ce type de festival va pouvoir perdurer dans le temps?
Alors, je crois que ça peut être complémentaire. Le streaming, c'est quelque chose qu'on partage seul devant son ordinateur ou en famille ou avec des amis. C'est intéressant, on découvre plein de choses et on a accès directement à plein de choses. Mais le festival, c'est rencontrer les gens qui font les films, parce qu'on a quand même pas mal d'invités qui vont être là pendant le festival. Quasiment chaque film est accompagné, hein, par le réalisateur, la réalisatrice ou le producteur, la productrice. Donc les gens peuvent discuter, aimer ou ne pas aimer le film, mais interroger la personne qui l'a fait, essayer de comprendre son point de vue. Donc les débats qui suivent les films, les débats, disons, les rencontres qui suivent les films sont notre ADN au festival de la Salle. Je crois que les spectateurs apprécient ces moments de rencontre, et puis il n'y a pas de compétition, on est détendu.
La programmation est dense, hein. On va évidemment pas pouvoir présenter tout aborder, mais parlons quand même de quelques focus. Vous fêtez l'anniversaire d'Eurodoc, 25 ans, bah comme vous d'ailleurs. Alors c'est quoi Eurodoc et concrètement comment vous allez les mettre en lumière ?
Alors, il y aura la directrice de Rodoc qui sera présente pour la rencontre des 25 ans, hein, une table ronde où il y aura des producteurs, des auteurs, des réalisateurs, des réalisatrices, et puis on va discuter un petit peu autour des coproductions internationales. C'est un peu le rôle de Rodoc, donc d'organiser et de mettre en forme ces coproductions internationales à travers des duos de producteurs et d'auteurs-réalisateurs. Donc avoir l'opportunité de cette table ronde pendant le festival, ça s'adresse bien sûr aux professionnels, mais pas que. Je veux dire, tout festivalier pourra assister à cette rencontre et je dirais comprendre un petit peu comment fonctionne la machine documentaire, ouais. comment se mettent en place les coproductions, le travail pour mettre en place la réalisation d'un documentaire. C'est un long parcours. Hein. Donc voilà, on va soulever un petit peu le capot de la machine, on va regarder un petit peu comment ça se passe, et puis surtout permettre des rencontres entre des gens qui viendront de différents pays européens, certainement, et là, envisager peut-être, pour certains qui seront là et qui ont des projets en cours, et ben de voir la possibilité de leur film coproduit à l'échelle européenne.
Ouais, voir l'envers du décor, en fait, si je comprends bien, Eurodoc, c'est un réseau, en fait.
Un réseau, oui, disons que c'est une continuité. Lorsqu'il y a des projets qui sont en route et lorsqu'ils sont acceptés au sein d'Eurodoc à travers un producteur, une productrice et puis l'auteur et le réalisateur qui porte ce projet, ce duo, il va y avoir la possibilité de faire différents chantiers, deux ou trois chantiers dans différents pays d'Europe. Donc là, c'est l'occasion de rencontrer des partenaires diffuseurs, mais aussi de rencontrer d'autres projets qui vont pouvoir émerger dans différents pays. Et je dirais que ce bain partagé pendant parfois une dizaine de jours de travail, hein, c'est des ateliers, des ateliers où il y a un peu de coaching, on se renvoie la balle, on essaie d'avancer chacun dans notre projet, et au fil d'une année ou deux comme ça de ces travaux et de ces ateliers partagés, les diffuseurs arrivent, différents diffuseurs européens peuvent arriver et se joindre au projet pour le diffuser à grande échelle.
On l'a dit tout à l'heure, le Québec est au rendez-vous encore cette année, au rendez-vous de DocCN, à travers la Fraîche Connexion. C'est la 10e année, me semble-t-il, qu'il sera à l'honneur, c'est ça ?
Ouais, 10e, déjà. Ouais,
déjà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la Fraîche Connexion ?
Bah, disons que le Richard Brouillette, donc, qui fait la sélection avec Guillaume Brouillet, ici, du festival de ses films québécois, je dirais qu'il recherche une sélection un peu de jeunes auteurs, pas nécessairement que des jeunes, mais il fouille un petit peu dans les films de l'année qui se sont donc réalisés ou qui ont été faits par des réalisateurs québécois. Et fraîche, bah, c'est un jeu de mots, hein, on l'entend bien. Mais disons, voilà, parfois il y a des films patrimoniaux, on en a passé beaucoup, des films québécois du patrimoine, mais là, cette année, ce ne sont que des films qui ont été faits en 2022-2023, donc qu'on n'a pas vu, nous. Hein. Enfin, nous, on les a vus pour les sélectionner, mais qu'on n'a pas vu ici en France, donc c'est une première française, ou peut-être vous en avez-vous diffusé là-haut lors de votre festival, peut-être.
L'occasion, hein, de parler de la programmation. Je crois que c'est une bonne quarantaine de films que vous proposez, hors court-métrage d'ailleurs, Sélection Générale, Focus Québec, FIFAC, etc. Parlons-en de ces choix en termes de prog. Comment vous les faites ?
Alors, il y a 46 films sélectionnés, 46 films, dont 10 courts-métrages, 8 premières, 2 avant-premières, plus de 50 invités quand même pendant notre festival, donc il va y avoir une dynamique, c'est sûr. Là, il ne faut pas hésiter à venir voir. Il y a vraiment des films très différents, hein, qui viennent de tous les continents. Et bien sûr, le soir, des concerts. On entame aussi le premier jour, le 8 mai, le soir, avec un ciné-concert, avec un film de Frédéric Rossif, qui rappellera sans doute pas mal de choses à beaucoup de gens. Et donc ce film sera accompagné d'une musique, un ciné-concert, quoi, donc sur la place publique, et pour tout public qui est là, disons, en plein air, quoi.
Ça, ce sera effectivement l'ouverture du festival, finalement.
Ouais, ça, c'est l'ouverture, c'est le mercredi, c'est bah, dès qu'il fera suffisamment noir pour pouvoir faire une projection de qualité, quoi.
Parlons-en des soirées, justement, parce que l'idée, c'est aussi de faire des belles soirées festives et musicales, puisque le 9 mai, ce seront les Frangins qui seront là.
Ah, c'est ça. Eh ben, oui, là, on aime danser à la salle. Alors, on programme de la musique le soir, la journée, on regarde des films. C'est vrai que le documentaire, parfois, nous interroge sur le monde. Nous, parfois c'est drôle, parfois ça ne l'est pas. Le monde n'est pas toujours drôle, il faut bien l'avouer.
Surtout en ce moment.
Alors, le soir, on se donne quand même la possibilité d'écouter de la musique et puis de danser. Voilà, on aime bien faire ça au festival d'Auxeven.
On va parler des tarifs tout à l'heure. Est-ce que ces soirées-là, elles sont gratuites ou alors il y a un PAF quand même?
Non, c'est gratuit. Les soirées musicales sont entièrement gratuites. Peut venir. Il n'y a pas de passe pour entrer dans le festival. On circule dans le village, bien sûr, comme on l'entend. Il y a d'autres activités qui s'y déroulent. Seules les séances sont payantes. Et en achetant un carnet, le prix est tout à fait abordable. Et il y a un pass également. Mais les soirées musicales sont gratuites. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr.
Alors justement, est-ce que tu peux nous faire une espèce de carte postale radiophonique du festival? Dans quel environnement sont plongés les spectateurs en termes d'ambiance, de décor, entre autres, sachant qu'il y a quatre lieux où se passe le festival, la filature, le temple, le foyer et la chapelle, c'est bien ça?
Alors cette année, on a enlevé la petite salle de la chapelle. Donc on a la filature, le temple et le foyer. Donc trois grandes salles. Le temple, on peut y mettre 280-300 personnes. Le foyer, 150. La filature, 180. Enfin voilà, on a une capacité d'accueil dans les salles qui sont très bien équipées. Donc ça, c'est très bien. L'ambiance, on arrive dans un village où finalement on choisit en fonction des films qu'on veut voir, on prend le catalogue et puis on prend à la billetterie le billet. En fonction de ça, on se dirige vers la salle où on veut aller. Et puis quand on veut prendre un petit peu de repos entre deux films, on se pose à la terrasse d'un café, on prend une galette ou une crêpe ou autre chose, un verre de bière. Et puis ou un jus de pomme. Et si vraiment on veut prendre un peu plus de temps, on descend à la rivière, à la Salindrinque. Enfin voilà, il y a ce côté un petit peu détendu. On est là, on va voir des films, on se repose, on se prend 2 heures d'arrêt, on retourne voir un film en soirée. Et je crois que c'est ça qu'apprécie le public, la possibilité d'être là dans un bain de films, dans un bain de cinéma, et puis en même temps d'être un petit peu en vacances, pas courir d'une salle à l'autre. Je crois que voilà, c'est ça qui est bien, ouais.
Prendre le temps tranquille, ça fait pas de mal des fois de prendre le temps, c'est vrai. Et justement, si on parle des infos pratiques, effectivement, j'ai les tarifs devant moi, c'est plutôt abordable.
Oui, l'idée c'est quand même de faire en sorte que le tarif ne soit pas quelque chose d'excluant, c'est le maître mot. Voilà, on essaie quand même de composer parce que, bien sûr, on a des coûts, les films, ça se loue, ça s'achète, les invités, on les fait venir de loin, et comme l'ADN du festival, c'est vraiment que les films soient accompagnés. Alors, on essaie de faire venir les réalisatrices, les réalisateurs, tant que faire se peut. Parfois, lorsque les billets sont trop chers, on renonce à contre-cœur. Alors à ce moment-là, on met en place une visio.
On joue de la technologie.
Oui.
Ça le permet, donc c'est bien de le faire, oui, c'est sûr.
Oui. Et puis des fois, les réalisateurs et les réalisatrices sont dans d'autres festivals à l'échelle internationale, donc ils ne peuvent pas venir ici. On leur demande quand même si c'est possible de faire une visio. Et là, on a le débat qui a lieu quand même en direct. Donc c'est intéressant. On peut discuter du film qu'on vient de voir avec la personne qui nous en parle. Puis on a des traducteurs sur place qui font la liaison entre lorsqu'on parle différentes langues.
Justement, tu parlais de coûts pour organiser un tel festival, parce que je vous le dis, auditeurs, auditrices, rien que le programme sur internet, doc7.org, doc-7.org, il y a 76 pages de programme, c'est super dense. Vous avez, je suppose, énormément de partenaires. Combien ça représente un peu en termes de coûts à peu près un festival pareil?
Alors, moi, je suis exactement dans la partie trésorerie, je pourrais pas dire de chiffres parce que j'ai peur de me tromper, mais je sais que le principal bailleur, c'est le bénévolat. Alors ça, je le sais parce que j'y suis aussi, et bon, comme dans toute association, après il nous faut bien quelques monnaies trébuchantes justement pour financer ce que je vous expliquais auparavant, c'est-à-dire faire venir les gens parfois de loin. les nourrir, les loger. Alors là, bien sûr, merci aux habitants de la salle et des alentours qui hébergent pas mal d'invités, hein. Bien sûr que ça, c'est une grosse partie. Voilà, si on additionne, je dirais, toute cette contribution volontaire de bénévolat, d'accueil, on a déjà une grosse partie du budget. Ce qui va être la partie cash, monétaire, ça va être les déplacements, la location des films, la location des projecteurs de qualité, hein, on fait des projections avec du matériel qu'on loue, quelques personnes qui bien sûr vont être payées en amont du festival, parce qu'il faut prendre contact avec tous les producteurs, les billets de train, les billets d'avion et tout ça, donc au dernier moment, un mois avant le festival, voilà, on embauche un petit peu, mais on se débrouille, quoi. Ouais, okay. Mais il faut bien l'avouer, c'est pas toujours facile parce que... Moi, je pense qu'un... Je peux parler plus longuement ou...
Avec plaisir, avec plaisir. On a tout notre temps. Bon.
Un festival comme celui-ci, qui expose quand même 46 films, et d'ailleurs pas mal de films régionaux, si ça veut dire quelque chose, peu importe, mais c'est un peu une vitrine, et les réalisateurs et les réalisatrices qui passent ici sont contents, ouais, que leur film soit dans un festival. Donc on contribue largement à l'économie du documentaire, enfin à l'économie, à la dynamique du documentaire. Et parfois, on a l'impression que le festival, il sera un peu une cerise sur le gâteau. De toute façon, les films, ils passent dans les salles de cinéma ou à la télévision, et le festival n'aurait pas tant que ça d'importance. Mmh. Nous, on essaie de dire que, non, le festival, il est un moteur dans la dynamique du cinéma et du documentaire. Il fait partie intégrante du cycle. Et on a un petit peu, parfois, l'impression d'être oublié. Mmh. Ça, il faut bien l'avouer. Notre affiche de cette année l'exprime un petit peu. On est sur le point de boire la tasse, mais on émerge quand même, on sort la tête de l'eau.
Ouais, vous vous accrochez, c'est ça. En tout cas, on sent bien tout le travail de dingue que ça représente, l'envie et l'engouement aussi que ça représente pour la salle. Auditeurs, auditrices, c'est pour ça que finalement, 55€ pour un forfait 10 séances, c'est quand même assez abordable. Ça fait 5,50€ le film, et c'est 7€ la séance, hein, me semble-t-il, c'est bien ça.
Oui, c'est ça. Donc la possibilité aussi, ces carnets, de les partager, c'est-à-dire si quelqu'un achète un carnet, il peut le partager, c'est pas nominatif. Donc il y a un pass aussi, je crois, cette année, qui doit être au même tarif que le carnet. Okay. Donc la possibilité de voir autant de films qu'on veut avec le pass, et puis le carnet, donc 3-4 films par jour, c'est bien, ouais. Je pense que ça fait un beau rythme déjà.
Toutes les infos, toute la programmation, auditeurs, auditrices, c'est sur doc-seven.org. Merci beaucoup, Jean-François.
Eh bien, merci. Et puis, à vous voir au festival, là, tout prochainement.
Ouais, en tout cas, tu représentais l'Asso, Champ contre Champ et le Festival international du film documentaire. C'est du 8 au 11 mai prochain à la salle. Excellent festival à vous et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Vous êtes toujours sur Radio Bartas et je suis par téléphone avec Cindy Chapelle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, vous êtes la directrice éditoriale des éditions Grand Petit Monde et vous publiez en partenariat avec le Parc National des Cévennes un livre que vous avez écrit, Gardien de la Nature, on va en parler. Mais déjà, racontez-nous l'aventure des éditions Grand Petit Monde. Comment et quand ça a démarré ?
Alors, il y a eu toute une démarche personnelle déjà. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le monde de l'édition pour plusieurs éditeurs nationaux comme autrice et éditrice. Donc, c'est un projet qui a mûri depuis plusieurs années. Et j'ai créé les éditions Grand Petit Monde début 2023 avec vraiment une ligne éditoriale consacrée au patrimoine naturel et culturel local. Et du coup, de là est née vraiment cette petite collection jeunesse à partir de 10 ans qui s'appelle Les Petits Romans Naturalistes, avec cette idée proposer des livres sur des métiers et savoir-faire locaux en lien avec la nature.
Ça, c'est une des collections, et si j'ai bien compris, vous en avez une deuxième qui s'adresse plutôt, disons, aux professionnels.
On peut parler d'un pôle ou en tout cas d'un axe différent de la maison d'édition qui propose également de l'édition sur mesure pour différentes structures culturelles et entreprises, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble à un projet de livre pour par exemple fêter l'anniversaire d'une structure ou encore un livre documentaire pour parler par exemple d'un parc animalier ou ce genre de projet.
Alors allons-y, qui est Jean-Pierre Malafosse déjà ?
Alors Jean-Pierre Malafosse, c'est un garde-moniteur du Parc National des Cévennes, jeune retraité, qui est passionné du coup particulièrement par les oiseaux, mais par la faune et la flore dans son intégralité, je crois.
Et comment s'est passé le travail d'écriture de ce livre, Gardien de la Nature, puisque c'est vous qui l'avez écrit, mais c'est avec Jean-Pierre ?
Oui, complètement. C'est vraiment un travail collectif. On a travaillé vraiment en étroite collaboration avec Ingrid, qui est la chargée de mission édition du Parc National des Cévennes, et bien sûr avec Jean-Pierre Malafosse. Donc on a commencé par des recueils de propos. Donc ça a été des discussions entre nous pour qu'il me raconte son parcours depuis l'enfance et sa passion qui remonte à l'enfance pour la nature. À partir de ces recueils de propos, il y a un texte qui a pris forme avec deux parties, parce que les livres sont faits en deux parties. Une première partie roman, donc qui raconte le parcours et l'histoire de Jean-Pierre Malafosse, et une partie plus documentaire, qui est un cahier nature dans lequel on parle notamment des vautours dans cet ouvrage, et dans lequel aussi on trouve des ateliers pratiques.
C'est ça l'idée, c'est aussi de faire non pas, je dirais, un livre traditionnel, hein, je ne sais pas comment dire, mais d'aller chercher des originalités pour que les enfants soient attirés par l'ouvrage parce que peut transmettre Jean-Pierre.
Oui, exactement. C'est pas toujours évident pour les jeunes lecteurs d'entrer dans des livres documentaires. Du coup, cette première partie roman permet vraiment de s'identifier au personnage réel, hein, du coup, qui est Jean-Pierre, pour ensuite entrer dans une partie un peu plus documentaire, qui est la seconde partie du livre, et parler notamment du métier de garde-moniteur, parler de la biodiversité locale, donc là avec un focus sur les vautours et sur les orchidées, et rentrer dans un côté plus concret, avec des ateliers pratiques, notamment pour apprendre à réaliser des moulages d'empreintes d'animaux. Donc c'est un peu de la théorie à la pratique, en fait, ces ouvrages.
Ouais, et puis on sent clairement que l'un des buts du livre, c'est quand même clairement susciter aux enfants des envies, voire des vocations.
Oui, complètement. C'est vraiment l'ambition secrète, ou pas, de cette collection. C'est vraiment de créer tout du moins des passions et peut-être des vocations autour des thématiques dont on parle. La première, du coup, c'était sur la pierre sèche. Là, c'est plus sur la protection de la nature. Donc c'est vraiment le souci de présenter des métiers qui sont aussi parfois méconnus et qui ont tout de grand et ont tout à honneur à être justement reconnus et reconnus.
Si je ne m'abuse, le livre est sorti début avril, c'est bien ça ?
Oui, le jour du printemps précisément.
C'est
beau. Donc fin mars.
Fin mars. Oui. Est-ce que vous avez pu échanger avec des enfants qui ont lu l'ouvrage déjà ou pas encore ?
Alors, pas encore, mais il y a des ateliers dans les écoles qui sont prévus pour la toute fin d'année. Donc, pour le moment, voilà, on n'a pas de retour sur cet ouvrage. En revanche, voilà, on a eu quelques retours sur le premier livre, Le bâtisseur en pierre sèche. Uh-huh. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, justement, c'est l'attrait pour les ateliers pratiques. Là, en l'occurrence, dans le premier livre, Le bâtisseur en pierre sèche, on proposait un atelier pratique pour réaliser une petite arche en pierre. Et du coup, c'est un atelier qui a voilà, suscité beaucoup d'intérêt de la part des lecteurs. Et c'est vraiment ce qui est ressorti, en tout cas, de ce livre, les retours qu'on a pu en avoir.
Le partenariat avec le parc, hein, au-delà du fait que Jean-Pierre en ait été garde-moniteur et Ingrid qui en est la chargée des éditions, qu'est-ce qui vous permet, est-ce que pour vous ça a été naturel qu'il y ait un partenariat qui se développe avec le PNC ?
Oui, effectivement, ça paraissait vraiment naturel dès le premier livre hein, sur la pierre sèche, parce que ça fait partie vraiment des missions du parc et puis c'était vraiment voilà des personnages aussi ancrés sur le territoire du parc, donc ça paraissait vraiment tout naturel de nouer ce partenariat ensemble et de pouvoir valoriser ces personnages et leur métier ensemble.
Grandpetitmonde.com, c'est votre site. Concrètement, on peut le trouver où, votre livre, et en général les livres que vous proposez?
Alors, les livres qu'on propose sont déjà disponibles en ligne, du coup, sur la boutique en ligne du Parc National des Cévennes. Mmh. Et après, ils sont disponibles dans toutes les librairies, finalement, du département de la Lozère, et également dans différents points qui ont des petits coins culturels, par exemple des épiceries qui ont des petits coins librairies dans les Cévennes. Donc on peut le trouver un petit peu partout finalement.
Cindy, est-ce que c'était pas un pari osé que de se lancer dans l'édition à un moment où ça peut être compliqué pour le monde du livre ou bien vous êtes super confiante pour le futur ?
Ah oui, non, c'est un pari osé, c'est vrai, vous avez raison. En revanche, oui, je suis enthousiaste sur le futur dans le sens où on a vraiment axé notre travail sur le local, en fait. Donc, ouais. C'est sûr qu'au niveau national, notamment avec le Covid, le monde de l'édition a pas mal changé, pas mal évolué. Il y a une dynamique qui est différente, me semble-t-il. Et du coup, nous, on a vraiment essayé de recentrer les choses sur le local. Et du coup, voilà, j'ai plus d'enthousiasme à suivre cette voie-là, parce que je trouve en tout cas que les retours qu'on a déjà sont positifs. Donc, voilà, pour la suite, nous verrons bien. Mais en tout cas, il y a une belle dynamique autour de ces projets éditoriaux en lien avec le territoire.
Et puis quel bonheur, hein. Moi qui travaille à la radio, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui travaillent au parc, qui sont des gens passionnés et passionnants. Est-ce que vous avez des rêves comme ça, un projet qui vous tient à cœur là, dans l'année qui suit ?
Alors, c'est vraiment de poursuivre cette collection parce que c'est assez merveilleux pour nous. Je dis pour nous parce qu'il y a aussi, du coup, Jérémy dans l'équipe qui est le photographe et graphiste hein, des éditions et qui, du coup, met en page cette collection des petits romans naturalistes. Donc, c'est assez merveilleux pour nous de pouvoir finalement plonger dans des mondes très différents à travers le métier, le savoir-faire de ces personnages trésors. Donc c'est vraiment poursuivre dans cette voie-là et continuer à rencontrer des personnages passionnants et des mondes méconnus et tout aussi passionnants.
Combien de temps ça prend pour réaliser un ouvrage comme celui dont on parle, alors, Gardien de la nature ?
Alors pour le moment, on édite un ouvrage par an. Donc je ne vais pas dire que ça prend un an pour écrire un tel ouvrage, mais ça prend du temps parce que voilà, on n'est pas dans l'empressement. On cherche vraiment à faire des ouvrages de qualité plutôt que de la quantité. Donc du coup, on prend notre temps et pour le moment, voilà, on édite un ouvrage par an dans cette collection en tout cas.
Parlons du prix. À combien on le trouve ce livre ?
Alors ce livre est vendu à 12 euros.
Ce qui en fait couvre grosso modo les frais d'édition, l'écriture, etc. Enfin, faut bien se rendre compte du travail que ça représente aussi.
Complètement, et qui permet aussi de vraiment donner une rétribution valorisante et de qualité aux différents points de vente.
Et justement, sur votre site, il y a une rubrique aussi nos engagements. À quoi vous vous engagez ?
Alors, c'est principalement au niveau de l'impression. Ça a été vraiment un choix, voilà, de travailler avec un imprimeur qui est labellisé Imprime Vert, mais qui est aussi installé en SCOP, donc il y a des valeurs humaines et environnementales, du coup les deux. Donc ça a été vraiment, en plus, les engagements à ce niveau-là. Pareil, il y a eu une discussion avec l'imprimeur pour imprimer des livres dans leur format standard, ce qui permet d'avoir moins de pertes de papier, moins de chutes. Donc du coup, c'est des livres qu'on édite en 13x21, parce que c'est le format standard de notre imprimeur et que ça permet des économies de papier. Donc ça a été vraiment plus une réflexion au niveau de l'impression.
Des marchés éthiques et dans l'air du temps. En tout cas, Gardien de la nature, livre dont vous êtes l'auteur, réalisé avec Jean-Pierre Malafosse, c'est disponible aux éditions Grand Petit Monde et bien sûr sur la boutique du parc et sur du site du parc national. Je mets tous les liens. Merci beaucoup, Cindy.
Merci beaucoup.
Cindy Chapelle, vous êtes également la directrice éditoriale de la maison d'édition Grand Petit Monde. Excellente journée à vous.
Merci bien.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Mercredi, c'est le 1er mai. On se retrouve donc lundi prochain. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec Beyrouth, So Many Plans. Excellente journée à tout le monde. Ciao. Safe from the